au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Paul Andreu, habituellement, on vous questionne sur l'architecture et sur vos œuvres. Vous nous aviez parlé sur Canal Académie de l'Opéra de Pékin, une de vos dernières œuvres architecturales les plus fameuses, et dans une autre émission de Norman Foster que l'Académie des Beaux-Arts a élu comme associé étranger. Or, vous avez troqué l'équerre pour la plume en publiant chez Stock votre premier roman « La Maison ». Mais pour votre premier essai en écriture, puisque vous aviez commencé avec un récit poétique, « L'archipel de la mémoire » publié chez Léo Cher. Alors, avec votre roman « La maison », vous emmenez votre lecteur dans une maison d'enfance et la visite est garantie, en compagnie d'un œil d'architecte précis. Paul Andreu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu nous présenter votre roman « L'histoire d'une maison entre rêve et mémoire, celle d'un archipel intérieur ». Paul Andreu, nous sommes loin des aérogares et de Roissy 1 que vous avez construit. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture et à publier ?
Oh, un vieux désir, un désir ancien, permanent, mais auquel j'ai peu cédé pendant très longtemps. Enfin, j'ai fait des essais, j'ai commencé, j'ai arrêté. Et puis c'est vrai qu'il y a combien maintenant, un tout petit peu moins de 10 ans, j'ai décidé que je pouvais, je me suis autorisé à écrire. Et j'ai écrit l'archipel de la mémoire, que j'ai publié 2 ou 3 ans après. Et puis après, j'ai écrit d'autres choses que je n'ai pas publiées, comme tous ceux qui écrivent. Et maintenant, voilà.
Vous avez toujours écrit ?
Non, pas toujours. Enfin, si vous voulez, j'ai toujours écrit des rapports administratifs, par exemple. Mais je doute qu'il vaille d'être imprimé. J'ai écrit comme ça un certain nombre d'articles. Oui, j'ai écrit beaucoup d'articles. J'aime ça, j'aimais ça. Mais encore une fois, c'est écrire, c'est se mettre à écrire. Hein, tout le monde le dit, moi avec ceux qui l'ont fait depuis leur plus tendre jeunesse, je le fais tard mais je le fais comme eux exactement.
On dit qu'écrire c'est difficile, c'est une torture.
C'est loin d'être facile pour moi. C'est aussi difficile que n'importe quelle création. Et on l'a fait, contrairement à l'architecture, on l'a fait dans une plus grande solitude. Ce qui est pas pour me déplaire, parce qu'à la fin, c'est vrai que l'architecture, c'est un peu comme le cinéma, il faut toujours avoir une troupe nombreuse, des tas de collaborateurs, et on a par moments l'impression de s'épuiser quoi, dans l'organisation, dans la communication. Là, au contraire, on est tout seul, c'est très contraignant.
Alors, ce sujet, aujourd'hui, là, sur la maison, c'est celui d'un espace que vous avez choisi là, pour votre premier roman, une maison et un jardin. Pourquoi avez-vous choisi ce thème de la maison ?
Je l'ai choisi parce qu'il avait été question que je fasse un ouvrage un peu de commande dans une certaine collection. Et je me dis, qu'est-ce que je ferais ? Bon, oui. Pourquoi pas parler d'une maison ? Voilà. Et à ce moment-là, ah bah oui, celle où j'ai vécu. Ça serait ça le sujet. Et puis, j'en suis resté là. Cette chose ne s'est pas faite. Pris du désir d'écrire, parce que je venais de finir quelque chose. Je voulais en entamer une autre. Je me suis dit, bah, faisons ça. Voilà. Je vais faire un texte, un roman, dont le sujet sera la maison. Et finalement, le regard que porte un enfant, un adolescent, un jeune homme sur cette maison, en disant bien qu'il n'est pas le seul habitant de cette maison, que c'est la maison qui est l'endroit de rassemblement de tous ces gens. Et lui la voit comme ça, d'autres la verront autrement.
En quelques pages, la maison s'impose, elle devient la maison. C'est assez rapide. Oui. Au début, on est dans le lecteur est dans la peau du narrateur qui raconte son enfance. La maison est au début celle de son enfance. Mmh. Est-ce que c'est un roman ou un récit autobiographique ?
Pour moi, c'est un roman. C'est un roman par son sujet d'abord, c'est bien le sujet, c'est bien la maison, c'est pas la biographie de cet enfant ou de moi-même, encore moins. Et ça n'a aucun des caractères de la biographie, je veux dire que ça n'est ni complet, ni exact. Je veux dire que même quand les choses sont vraies, leur vérité littéraire n'est pas là. Elle n'est pas dans le fait qu'effectivement, à un certain moment et tel jour, il s'est passé ça. La vérité littéraire, c'est de créer... d'essayer de créer une espèce de corps de texte dans lequel les lecteurs trouvent quelque chose qui est à eux, plus qu'à moi. Donc de ce point de vue-là, je ne dis pas que dans une biographie bien faite, le lecteur ne peut pas s'insinuer et trouver sa place, au contraire. Mais enfin, c'est un autre exercice et c'est une autre visée que j'avais là, pas du tout. D'ailleurs, pratiquement tout ce que je dis s'arrête aux frontières de la maison. On voit au loin les nuages, on sait qu'il y a une rue.
On sait qu'il y a l'extérieur, qu'il y a des voisins.
Bon, on sait qu'il y a un voisin, mais parce qu'on les voit. Ceux qu'on ne voit pas n'existent pas. On sait qu'il y a une rue où on peut courir, mais on sait qu'on peut aller faire des tours de vélo. Voilà, mais c'est tout. Ça s'évapore aussitôt.
Il n'y a pas de contrainte.
Non, et c'est une chose extrêmement classique. Il y a une unité de lieu totale.
Alors, on visualise bien cette maison au début, parce que vous la décrivez bien quand même, avec ses matériaux, la pierre qui est rassurante, les balcons, les incrustations dans les façades. Là, quand même, on sent un peu l'architecte derrière ces lignes. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, j'allais dire que moi, en tant que lectrice, j'ai oublié cette visualisation. Et la maison disparaît, elle devient floue au fur et à mesure que le narrateur rêve de plus en plus de la maison. Elle s'éloigne concrètement dans cette description. Et puis, c'est la porte qui s'ouvre sur les émotions, la mémoire, les vraies histoires de la maison.
Oui.
De ceux qui y vivent, en tout cas. Parce qu'il y a une flopée. Enfin, flopée, non. Il y a plusieurs personnages. Et d'emblée, c'est la fratrie qui apparaît. Vous allez peut-être les énumérer. La mère, le grand-père, le père.
Oui, oui.
Mais il y a cette maison qui, au début, moi, je l'ai beaucoup vue, on va dire. Et puis, au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure que le narrateur la rêve, ou elle s'impose dans ses rêves, elle disparaît, elle devient floue, et c'est autre chose qui apparaît.
Mais d'une manière, c'est tout à fait juste ce que vous dites, elle devient floue. Et il y a deux manières, au fond, deux causes qui peuvent rendre les choses floues. Soit que vous vous en éloignez, et qu'effectivement, votre vue ne distingue plus trop les détails et que les choses deviennent floues. Et une autre manière qui est, si vous vous souvenez du film Blow Up, cette espèce de démonstration formidable de ce que la photo agrandie montre de plus en plus de choses, de plus en plus, et qu'il y a un point de rupture où là tout devient flou, où il n'y a plus cette précision. Et c'est en même temps une des lois physiques de la nature. C'est à cet endroit-là pour la photographie, ça sera un autre dans la photographie ou l'idée qu'on peut se faire des particules élémentaires. Il y a tout le temps un degré, un moment où la précision augmentant cède. Je me suis laissé aller à ça volontairement. Au fond, j'ai décrit avec beaucoup de précision un certain nombre de choses, non pas parce que je pensais qu'elles étaient d'un intérêt intrinsèque formidable, mais parce que je voulais créer une présence, que cet excès de description, parce que par le moment c'est presque un excès, il convainc le lecteur qui ne les suit pas forcément ou qui les suit selon son tempérament, qu'effectivement on est dans quelque chose de très précis et qui se précise. Et pour l'amener à ce point de rupture où effectivement les choses devenant floues, c'est lui et ses souvenirs à lui finalement qui vont se mettre à compter. Et la définition de l'espace va devenir tout autre. Au fond, c'est ce que je dis à plusieurs reprises, la géométrie de cet espace n'est plus la même. C'est une géométrie comme les mathématiques en inventent, stricte, mais déformée, avec des propriétés qui sont, je crois, celles de l'espace dans le rêve.
Et vous avez apprécié de vous glisser derrière les personnages que vous évoquez ?
Oui, c'est-à-dire que ces personnes, au fond,
C'est une famille. Dans les années 40.
C'est clair que c'est une famille dans les années 40. Ça commence pendant de 40 à 45.
Frères,
ça se poursuit. Là, non, un frère
deux,
et une sœur.
Voilà, oui, je vais y arriver.
Une fratrie de
une
trois.
Fratrie
mais,
de trois.
Et puis, chose qui arrivait bien plus souvent à l'époque, un grand-père qui vit dans la famille. Et puis, à peine évoqué, d'autres personnes qui viennent y vivre un certain temps, des cousines, une grand-mère, je crois que je ne l'ai pas évoqué là. Mais bon, voilà, c'est comme ces maisons assez vastes pour qu'on puisse y inviter les gens, les accueillir, qui sont des maisons de famille. Et effectivement, chaque personne a sa maison, chaque personne vit dans sa maison.
Moi, je
n'ai parlé que... Oui, à
c'est
son
très
lieu,
joli.
Ses habitudes. C'est... Moi, je ne parle que de ma maison, celle du narrateur. Je ne parle pas de la maison des autres. Je ne doute pas qu'elle soit différente. D'ailleurs, quand à la sortie de mon livre, quand j'en ai parlé avec mon frère et ma sœur, il est clair qu'on n'avait pas les mêmes souvenirs ou les mêmes points saillants sur lesquels notre mémoire s'accrochait. Et chacune des personnes arrive comme, effectivement, ce qu'elle a eu d'important. Elle émerge de sa vie à elle, de personne, complète, totale, inconnue quand on lit le roman, mais elle émerge comme ce qu'un enfant vivant dans cette maison, croisant, frôlant, se trouvant en face d'une autre personne, on voit la figure du grand-père,
Gardien du feu.
Gardien du feu, qui fait la cuisine, qui aime des chats, qui est d'une grande douceur, peut-être un peu moins doux déjà. Bon, la mère, les rapports du père et de la mère. Mais les rapports du père et de la mère, pas dans l'absolu. Ce que l'enfant en perçoit. Et ce qui, davantage, ce que dans ce qu'il perçoit, il relève.
Puis il y a aussi l'incursion du jugement adulte, puisqu'il y a de temps en temps des phrases qui disent « Oui, finalement, ça, c'était peut-être pas si grave, ça, c'était peut-être pas si grand, ça, c'était peut-être...
Oui. » Bon, oui,
c'est mieux dit, hein.
Oui, bien sûr. Et c'est ça aussi qui fait que c'est un roman. C'est que celui qui écrit en disant « je » est bien quelqu'un qui commande, qui a les pouvoirs du romancier, quoi. Hein, c'est-à-dire de choisir de commenter un peu, de diriger son personnage, oui. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il pourrait dire souvent « tu » au gamin.
Alors, vous avez aussi, dans ce roman, mis quelques pépites qu'on partage tous dans notre maison d'enfance, des lieux secrets, des trésors cachés. Bon, alors, on s'y retrouve très facilement. Pour peu qu'on ait habité une maison enfant, on pense effectivement immédiatement aux couloirs. Vous parlez de la géométrie des couloirs. Effectivement, aujourd'hui, moi, je ne vis plus dans une maison où il y a des couloirs. Et on pense à tout ce qu'on a imaginé, pensé, rêvé, comment on s'est construit dans ces espaces. Mais dans cet art de raconter un peu lacunaire que vous évoquiez tout à l'heure, vous parlez aussi du temps qui passe quand même, des émotions, des disparitions et des séparations. Cette maison, comment vous l'avez quittée dans votre roman ?
Si vous voulez, il y a les moments où on la quitte pour un temps, sachant qu'on va revenir, mais des temps relativement longs. Ça. Et puis, et la fin de la guerre, à cause des difficultés, a été un de ces moments-là. Les trois frères et sœurs sont partis vivre ailleurs.
La maison disparaît avec les personnages ? Avec ceux qui la quittent ?
Non.
Puisqu'elle est là. Elle
non,
est
pas vraiment. Elle est là constamment. Et quand je l'ai quittée, au fond,
Elle ne meurt pas.
Elle ne meurt pas. D'abord, je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont on la quitte. Hein, si c'est dans le drame, si c'est à un moment extrêmement marqué, si c'est que les uns et les autres ne partent pas au même instant. Je crois que ça joue. Je crois que ça joue beaucoup. Mais en même temps, l'existence dans la mémoire est une vraie existence. Et l'existence, comment dirais-je, la mémoire éternellement réalimentée et refaite et recomposée et transformée par le rêve en est une complète. Au fond, si vous voulez, quand on parle du temps, on peut se demander s'il y a du présent, puisque de toute façon, le temps que le cerveau ait réagi, il ne connaît le présent qu'après. Il lui faut du temps à ce pauvre cerveau pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc le présent vrai, c'est presque une notion purement physique. Et le passé, c'est quand même ce que ramène la mémoire et le rêve.
Vous jouez beaucoup sur ces
deux plans. Oui, parce que je pense que ce qui fait que des choses comme une maison, comme un événement, sont des espèces de balises qui vous envoient des signaux en permanence. Hein. C'est le fait qu'ils sont gravés dans la mémoire, mais au fond, la mémoire ne suffirait pas. Quoi. La mémoire ne suffirait pas parce que moi, j'ai la conviction, je ne suis pas neuropsychiatre du tout, mais j'ai la conviction absolue que la mémoire ne range pas les souvenirs bruts, ce proustien, et puis ce qu'on en dit ou ce qu'on en écrit. Et je pense que quand on, par exemple, quand on parle de ces souvenirs, quand on écrit encore davantage, on fait glisser l'essentiel du souvenir dans un autre lieu où il est plus durable, mais déformé, mais appauvri.
C'est là sa dimension romanesque pour l'écrivain ?
Oui. Et là, si vous voulez, ça l'appauvrit. Ça ne sera plus jamais, pour parler comme Proust, la recomposition totale d'un souvenir parce qu'un pavé émergeait ou parce que la Madeleine fondait dans la cuillère. Ça n'arrivera plus parce qu'on l'a décrit et qu'on est allé jusqu'au bout de la description et qu'on l'a mis ailleurs dans son cerveau. Mais le rêve, lui, il se fiche de ça. Il arrive avec une totale liberté parce qu'il recrée les choses. Il reprend ses éléments, il en fait autre chose et il fait du passé un éternel présent, finalement. Ou un éternel faux présent.
Alors, qu'est-ce que l'écriture de ce roman vous a apporté ? Vous vous êtes amusé beaucoup à l'écrire ?
Ah, je ne sais pas.
Il y a des passages très drôles,
très
amusants.
Oui.
C'est vraiment très, très, très bien écrit. Le narrateur, l'adulte qui évoque les mémoires d'un petit lapin, le premier livre du narrateur. en quelques lignes, il y a des personnages qui sont très bien campés. On a vraiment beaucoup de plaisir à lire ces pages avec un certain humour. Une belle distance.
Oui,
Alors,
oui,
vous,
oui,
est-ce
oui.
que vous vous êtes amusé ?
Oh, amusé est pas le mot. Oui, dans certaines descriptions, oui. Maintenant, je sais toujours une chose, si vous laissez décrire de manière assez vive, assez alerte, je veux dire, en allongeant les phrases là où j'ai envie de les allonger, mais en les raccourcissant très fort à côté, et en travaillant tout le temps par ellipse. Au fond, je me rends compte que j'écris toujours des choses extrêmement condensées, et les condensant, ça donne au trait, pour parler comme un dessinateur, ça donne au trait beaucoup d'importance, quoi. Au fond, c'est bien ce trait qui fait que le dessin de, excusez-moi de me ranger sous une bannière si, si glorieuse, que le dessin d'Aumier est si virtuose, plein de sens, bon, parce qu'il travaille par ellipse, tout à fait. Il fait un trait et tout y est.
Paul André, bon, vous nous liriez petit passage ?
Je lis très très mal.
Oh, ça fait rien. Un petit passage qui vous tient à cœur, ou comme ça, là, on ouvre le livre au hasard, je ne sais pas, je viens de vous donner de votre livre.
Où est dans la maison le lieu du secret ? Mais voyons. Quel secret ! Chacun avait bien un certain nombre de choses qu'il voulait garder pour lui, ou dont il avait honte, mais personne n'avait de secret. Rien au cœur des armoires qui ne puisse être vu, rien au cœur de chacun qui ne puisse être dit, ou qu'il faille ne pas entendre. Mais non, rien. L'enfance est innocente et elle est ignorante. En vieillissant, nous en faisons la caricature de ce que nous sommes devenus. Mais nous n'étions pas ces images, déformées et faussées par le renversement du temps. La maison nous cachait, parfois, souvent, qu'importe. Nous ne lui confions pas de secrets. Elle n'en contenait pas qui nous bouleversa. Au fond, nous ne savons rien vraiment de notre enfance, sinon, et encore, avec quelle épaisseur d'oubli, la forme des lieux qui l'ont contenu. Il n'y avait que de faux secrets. Pourquoi ce pluriel ? Il y avait un faux secret, un seul, que plusieurs membres de la famille reprenaient sur le ton du plus grand sérieux ou celui de la plaisanterie, l'échange accidentel d'enfants à la maternité qui avait introduit dans la famille, dans la maison, le fils d'une gitane accouchée le même jour que ma mère. Cela expliquait tout à la fois que je fusse sale et quelque peu menteur, très peu porté à la lecture et aux études, que sais-je encore. Qui avait inventé cette histoire ? Je ne le saurais jamais. Quelle importance cela a-t-il d'ailleurs ? Mon frère, mon père, ma mère la reprenaient, avec le plus souvent une pensée émue pour le malheureux enfant qui ramassait, où il le pouvait, jusque dans les poubelles, les livres les plus dégradés pour pouvoir s'adonner à ce plaisir que j'ignorais et méprisais, la lecture. J'avais les yeux noirs, la fainéantise, le mauvais fond d'un gitan. À la vérité, je n'étais pas de la famille. On m'y élevait, puisque l'autre, le véritable enfant, était à jamais perdu, mais avec un regret persistant. Le sang, en quelque sorte, était trahi. J'avais toujours pensé ne pas souffrir de cette histoire stupide. Je l'ai dit, je l'ai répété, avec toute la bonne foi dont j'étais capable. Qu'en était-il vraiment ? Bien sûr, je n'en sais rien. Je crois que sans y avoir jamais cru, j'ai intégré en moi cette histoire comme la reconnaissance d'une différence latente que je devais découvrir, acquérir et exprimer. La différence est une chance, une charge, un devoir peut-être. Au moins vis-à-vis de soi-même. Elle isole, elle rend vulnérable comme l'arbre au milieu d'un champ d'herbes et de rochers, mais aussi elle est douce. Le vent me saisissait parfois, me tenait dans le frisson d'un plaisir inconnu, m'apportait le parfum d'un ailleurs qui pouvait être pris aussi bien dans un lointain inaccessible que dans les plis si proches et familiers de la maison.
Merci beaucoup de cette lecture. Alors c'est pas la partie la plus amusante et la plus drôle.
Ah non.
Le narrateur dit « J'ai toujours pensé ne pas souffrir ». Et la maison, un peu plus loin, où c'est au même endroit, la maison guérit du secret, de ce faux secret.
Oui, ce genre d'histoire, tout enfant, un jour ou l'autre, s'est dit qu'il avait été abandonné, que ce n'est pas vraiment ses parents. Tout enfant se le dit, c'est un grand classique. Là, l'insistance ici, c'est que tout le monde jouait avec ça. Et moi, après tout, j'acceptais tout à fait qu'on en joue.
C'est aussi toute la charge, une charge émotionnelle très forte dans ce genre de souvenirs, quand on se rend compte de ce qu'on faisait de nous.
Oui, on se rend compte à la fois de ce que les autres faisaient, mais on se rend compte de ce qu'on acceptait de gaieté de cœur. Et on doit s'interroger autant sur le pourquoi on l'acceptait que sur le pourquoi les autres le faisaient. Au fond, le pourquoi on l'acceptait est encore plus important.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure Proust. Dans le roman, il y a deux poètes qui sont cités, René Char et Éluard. Quels sont vos goûts littéraires ?
Ils sont extrêmement multiples.
Tout à l'heure, vous avez évoqué Blow Up de Cortázar. Enfin, c'est à l'origine, c'était une nouvelle de Cortázar.
Oui, je vous dis pas mal de littérature étrangère. Ils sont désordonnés. Je veux dire, ils correspondent à aucune organisation, voyez, qui aurait un sens, un ordre, une espèce de recherche organisée, comme en auraient les chercheurs d'or là. Non, moi je creuse où je suis.
Qui appréciez-vous, qui l'écrivain aimez-vous?
Si vous voulez, des choses très très différentes. Je lis avec beaucoup de bonheur les romans de Vargas Llosa. J'en ai lu beaucoup, tous peut-être pas. J'en ai lu beaucoup. Je trouve que c'est un grand virtuose de l'écriture. Je trouve que c'est un critique d'une très grande profondeur. Hein, voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues et comprises grâce à lui. Mais j'ai lu surabondamment, vous voyez, pour aller d'un extrême à l'autre, Alexandre Dumas.
Quand je dis surabondamment.
Même dans un passé. Il y a longtemps. Honnêtement, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu au moins 7 ou 8 fois Monte Cristo, au moins, et Les Trois Mousquetaires une dizaine de fois, quoi, vous voyez. Et je crois bien que Monte Cristo, la dernière fois, ça devait être il y a 4-5 ans. Enfin, vous voyez, c'est pas. Hein, je le connais par cœur, mais je le relis. Vous voyez, alors j'ai lu les grands romanciers américains comme Harrison, par exemple. Bon, je les lis avec un grand bonheur. Je lis un certain nombre de choses qui sortent ici et là. J'ai lu dans un plus jeune temps Les Hommes de bonne volonté en entier. Et pourtant, j'étais un mauvais lecteur. Je ne lisais pas beaucoup. J'ai attendu très longtemps pour lire Guerre et Paix, mais avec un grand bonheur. Proust, c'est pareil. J'ai attendu très très longtemps. Bon, alors dans les meilleurs des cas, j'ai hoché la tête. Oui, bien sûr. Charlus, oui, bien sûr. Mais je n'avais rien lu du tout.
Jusqu'à ce qu'on l'ouvre.
Mais jusqu'à ce que finalement, je le prenne. Mais je ne l'ai. Alors, lui, jamais lu, bien sûr. J'allais dire bien sûr, non, il y a des tas de gens qui le font, mais moi je ne l'ai jamais lu d'affilée, quoi. Je crois que j'ai à peu près tout lu maintenant, mais par morceaux et en me promenant. J'ai lu la Divine Comédie en entier, compris la description de tous ceux qui ont la tête en bas, la tête en haut. Vous voyez, j'ai lu des choses extrêmement simples et faciles, et des choses qui sont beaucoup plus difficiles. Bon, dont certaines sont même parfois rébarbatives. Ça dépend complètement du moment et d'où je suis.
Vous avez visité une maison d'écrivain, enfin, probablement, j'imagine, dans votre vie.
Je crois qu'au fond, non, pas tellement.
Comment ?
Pas tellement. J'ai dû. Si, j'ai visité, bien sûr, la maison de Victor Hugo, Place des Vosges.
Ça.
Mais j'en ai à peu près aucun souvenir, il faut être honnête. Et puis, j'ai dû visiter. Est-ce que j'ai visité la maison de Borges ? C'est pas impossible. Je ne sais plus, là. Peut-être bien que j'ai visité la maison de Borges. Mais là aussi, si vous voulez, elle ne me laisse pas des souvenirs extraordinaires.
Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a des livres qui parlent de maisons qui vous ont particulièrement plu ? Pas évident. Ou est-ce qu'il y a une maison dans les œuvres que vous nous avez citées qui aurait laissé quelques traces dans votre mémoire ?
Pas vraiment des maisons. Il y a bien sûr dans Crime et Châtiment des descriptions de cours et dans ces cours d'appartements un peu, hein, l'appartement de la vieille. Je ne dis pas que je le vois, mais vous voyez, c'est justement toute la force. Si je pouvais atteindre une telle qualité, bien sûr, je serais heureux. Et la force de la description là, c'est qu'elle vous laisse un souvenir extrêmement fort dans lequel vous avez l'impression d'avoir vos propres souvenirs au fond. Et aucun des détails qu'il décrit. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que ça s'accroche si bien. Vous voyez, vous me dites ça, je dis, ah oui, il y avait cette cour sordide, il y avait ça. C'est comme si j'y avais été et que je tentais de m'en souvenir, alors que je n'y ai pas été et que tout ce qui fait ça, tout ce qui me permet d'avoir cette espèce de sentiment, ça, je l'ai oublié. C'était essentiel romanesquement, sans intérêt par rapport à la vérité courante de tous les jours, ce qu'on appelle couramment la vérité. Donc c'est bien la vérité que Llosa définit, c'est-à-dire lui dit la vérité par le mensonge, et je crois que c'est... Et voilà, c'est la vérité romanesque est ailleurs.
Merci Paul Andreu d'être venu nous parler de votre roman La Maison, publié chez Stock.
Merci bien.